Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Vous allez bien Thomas?
Oui, ça va très bien. Il faut dire les choses quand même, vous étiez en plein fou rire juste avant qu'on prenne l'antenne. Heureusement, tout est revenu dans l'ordre, ça va.
Et oui, je vous ai charrié comme d'habitude.
Vous avez une petite larme au coin de l'œil quand même.
Je vais finir mon fou rire, je reviens.
Allez, on va vous raconter l'histoire de Walt Disney tiens, dans cette émission. Et vous allez voir que 50 ans après sa mort, il continue de nous faire rêver, petits et grands. Vous verrez comment il a révolutionné l'art du dessin animé.
Alors, que ça sente les pieds, la lavande, le linge propre ou la laine de poney, notre nez fait la différence entre le propre et le sale. Et si tout cela était purement et simplement culturel, les bonnes odeurs, on découvre ça tout à l'heure.
Allez, d'abord, on saupoudre un petit peu de poudre de fée. On vous emmène dans le monde magique de Walt Disney.
RTL. Le musée Art Ludique présente en première mondiale l'exposition L'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature.
La curiosité est un vilain défaut.
Découvrez plus de 400 œuvres originales, jamais exposées en France. Ce parcours immersif vous fera partager l'esprit visionnaire et le talent éblouissant des artistes des studios depuis près d'un siècle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une exposition magnifique qui vient d'ouvrir ses portes au Musée Art Ludique de Paris Expo, où vous venez de l'entendre présenter en première mondiale, qui retrace près d'un siècle de création des studios Disney. Isabelle Schmitz, bienvenue.
Plaisir de vous retrouver.
Très heureux de vous retrouver dans notre cabinet de curiosité.
Et moi de même.
Vous publiez un hors-série du Figaro consacré à Disney, c'est en partenariat avec RTL. Tiens, on va démarrer, on aime bien démarrer par les anecdotes. Pour commencer, ça remonte à l'enfance de Walt Disney. Combien de livres possédaient ses parents?
Alors la légende dit que ses parents possédaient uniquement deux livres, la Bible et un livre de contes, dont sa mère lisait au petit Walt au moins un récit par jour et qui a vraisemblablement animé son enfance et qui l'a sauvé de choses un peu moins drôles qu'on évoquera peut-être.
Pourquoi ? Parce qu'il vient d'une famille pauvre, hein, il vient d'une famille difficile.
Alors c'est une famille effectivement qui n'est pas riche. Le père de Walt, qui s'appelle Elias Disney, est un entrepreneur, mais malheureusement, ne réussit pas dans ce qu'il entreprend, donc on peut dire que c'est un loser, malgré ses nombreux efforts pour essayer de faire vivre sa famille. Il vivra un moment à la campagne dans une ferme, ce qui sont a priori les seules années heureuses et paisibles de Walt, qu'il exaltera ensuite dans ses films par la présence de la nature particulièrement importante. Mais ensuite, à l'âge de 10 ans, il déménage et il s'installe à Kansas City. Et là commence pour Walt une enfance qui n'en est pas une, en fait, parce que pour aider la famille, le père met ses fils à contribution pour distribuer des journaux. Et donc Walt, à 11 ans, se lève à 3h du matin pour aller distribuer des journaux avant d'aller à l'école.
Et Walt Disney, à 14 ans, on est en 1915, il assiste à une projection à Kansas City. De quel film s'agit-il et qu'est-ce que ça va provoquer ?
Alors, Walt Disney assiste à la projection de Blanche-Neige, le film tiré du conte, et il se retourne, il est au cinéma fasciné, il entend les rires des enfants, leurs frissons quand ça fait peur, il se retourne et à voir en fait la tête ébahie de ses jeunes camarades, il réalise que la puissance du cinéma en fait. Et c'est sans doute là que germe cette idée de traduire les contes au cinéma.
C'est une légende américaine, Walt Disney, et pourtant il a toujours été inspiré par l'Europe et notamment par la France. Comment il a découvert notre pays ?
Alors, il a découvert notre pays en s'enrôlant pendant la guerre. En fait, il a menti sur son âge, il a triché parce qu'il avait 17 ans. Normalement, il n'aurait pas pu s'engager dans l'armée, mais son frère aîné s'étant engagé, lui aussi voulait connaître l'aventure. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour être accepté comme ambulancier. Manque de chance pour lui, il arrive et la paix est déjà déclarée.
Oui, parce qu'il est né en 1901, donc 17 ans, 1918, on est à la fin de la guerre.
Voilà, on est à la fin de la guerre, il arrive et donc c'est un fiasco parce que voilà, il se retrouve en France, mais il ne voit pas la guerre.
En revanche, il
se promène. Exactement, il se promène beaucoup, il visite, il va peut-être à Isigny parce qu'on dit que sa famille serait originaire d'Isigny, de Normandie. Et en tout cas, il profite de ce voyage en France et en Europe pour acheter tous les livres qu'il peut sur les contes. Justement, les livres de contes, là, il en découvre beaucoup plus qu'un. Et c'est le début d'une vraie passion européenne qu'il n'aura de cesse d'entretenir.
Et qu'on retrouvera d'ailleurs dans les décors de certains de ses films. C'est assez intéressant de voir que dès l'enfance et dès l'adolescence, il y a en germe ce qui sera l'œuvre de Walt Disney. Mickey Mouse, qui est le personnage emblématique, iconique aujourd'hui de Disney, c'est même la marque. Est-ce que c'est le premier personnage qu'il a dessiné, qu'il a créé ?
En fait, non, ce n'est pas Walt Disney qui a dessiné Mickey. Ah oui. C'est Hubb Iwerks, ou Iwerks, qui était son ami et son associé. Mais en fait, Mickey n'est pas le premier personnage que Hubb Iwerks a dessiné avec l'accord de Disney, à la demande de Disney, puisqu'ils avaient au départ lancé un autre personnage qui s'appelait Oswald, le lapin chanceux.
Alors, des grandes oreilles aussi, mais un lapin.
Voilà, on a reproduit dans le Figaro hors série des reproductions, des dessins d'Oswald, le lapin chanceux. Vous verrez qu'il se ressemble quand même énormément avec Mickey Mouse, sauf la forme des oreilles. Celles du lapin sont bien plus allongées et celles de Mickey sont rondes. En fait, pour des histoires de droit avec Hollywood, Disney en fait ne peut pas, demande à être mieux payé, tout simplement par le producteur qui distribue ce Oswald le lapin chanceux, cette première petite série qui fait un carton. Le producteur refuse et donc Disney s'en va, mais ne peut plus exploiter Oswald le lapin chanceux.
C'est presque sa chance d'ailleurs.
Et donc il va créer un nouveau personnage. C'est en 1928 que naît la petite souris Mickey dans un dessin animé intitulé Steamboat Willie. Alors, moi, je l'ai revu récemment parce que j'ai visité l'expo du musée Art Ludique, donc j'ai les images en tête. C'est vraiment le Mickey des tout premiers temps qui est aux commandes d'un petit bateau. Et puis, on voit les sirènes qui réagissent un peu comme des personnages qu'on pourrait croire vivants. C'est un succès immédiat, ce Steamboat Willie. Ça marque les esprits parce que c'est novateur. Et ça, c'est un élément important de toute la création de Disney. Pourquoi c'est novateur ?
Alors, c'est novateur parce que ce dessin animé parle. C'est un prodige. Le dessin animé existe déjà depuis au moins une dizaine d'années. Les gens sont habitués à en voir, aiment beaucoup ça. En général, ça intervient en première partie avant les films, au cinéma. Mais en général, c'est on appelle un pianiste ou un orchestre pour jouer pendant le dessin animé. Et là, Disney a synchronisé la bande sonore avec la bande du dessin animé. Donc on voit, c'est les personnages qui s'animent, qui parlent, on entend l'eau qui arrose Mickey. Et donc tous les bruitages, les bruits, les répliques sont en même temps que le dessin. Et ça, ça captive totalement les gens.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL. Hakuna Matata, Mickey frotte magnifique. Hakuna Matata,
regarde Lion, ne te trompe pas de voix.
Je voudrais déjà être roi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On a tous en nous quelque chose de Walt Disney, c'est vrai, hein, on reconnaît tous un extrait, on a tous comme ça une petite musique qui nous tient à cœur. Walt Disney, passeur d'histoire, c'est le titre du Figaro hors-série, publié en partenariat avec RTL à l'occasion de l'exposition du musée Art Ludique qui consacre son exposition au studio d'animation Disney. On peut y découvrir 400 œuvres majeures, pourquoi pas pendant les vacances de la Toussaint, c'est une bonne idée de sortie.
Idée.
Isabelle Schmitz, nous sommes avec vous et on est en 1934. Walt Disney veut produire son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Siffler en travaillant, c'est une bonne idée,
ouais,
ça.
Ouais.
Comment Walt Disney a parlé de ce projet à ses collaborateurs en 1934 ?
On est en 1934 et Disney invite ses collaborateurs à dîner. Et leur dit rendez-vous dans 2 minutes à l'auditorium. Et à l'auditorium, il se met sur la scène et lui tout seul mime toute l'histoire de Blanche-Neige. Il fait tous les personnages, les bruitages, les mimes, etc. Et de 20h à minuit, il tient son équipe en haleine pour leur raconter.
Il est même quasiment en larmes, c'est ça,
un
moment.
Oui, au moment de la mort de Blanche-Neige, il est en larmes. Les témoins disent qu'ils ont vu de vraies larmes couler. Il vit totalement l'histoire et il emporte l'enthousiasme de son équipe d'animation et il les entraîne pour une aventure qui va durer 3 ans.
3 ans de fabrication de Blanche-Neige et les Sept Nains, ça va être un incroyable succès. Pourtant, ce premier long métrage va se faire dans la douleur, toujours en raison de sa perfection.
Je vous parlais de son perfectionnisme, effectivement. Pour vous donner une idée, on a entendu une des chansons mythiques de ce long métrage. Je crois qu'il en retient 8 au final, mais il en faut composer 30. Donc il y a 30 chansons qui ont été fabriquées pour aboutir finalement à 8. Et pour les dessins, c'est absolument pareil. Il y a une scène également mythique, mais que peu de gens ont vue, qui est le moment où les nains mangent leur soupe, qui ne fait pas partie du film, en fait, qui est restée dans les bonus, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le temps de mettre la scène, de coloriser la scène. Il fallait chaque scène demander un travail fou. Et après déjà 3 ans de travail, tout Hollywood ricanait, parlait de la folie Disney. Voilà, il est devenu fou. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent tous sur ce film. Il y a 700 personnes qui travaillent. Et voilà, 3 ans après, on n'a rien vu. Et donc finalement, les financiers, le producteur, tout le monde somme Walt Disney de sortir son film. Et il le sort avec le succès qu'on connaît. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait sans douleur.
Ouais. Un grand succès public, un succès aussi de la critique, reconnu par ses pairs, puisque ce film reçoit un Oscar d'Hollywood. D'ailleurs, l'Oscar est amusant parce qu'il reçoit un Oscar plus 7 petits Oscars comme les 7 nains. C'est ce qu'on entend, ce qu'on apprend dans l'expo du musée Art Ludique notamment. Isabelle Schmitt, c'est quoi les étapes de la création d'un film comme celui-là? J'imagine ça commence tout simemplement par un scénario.
Alors voilà, ça commence par un scénario. Je vous l'ai dit, Disney lui-même avait raconté le scénario à ses équipes. Et ce scénario ensuite est traduit en images. C'est ce qu'on appelle le storyboard.
Là, donc ça, c'est comme quoi, une planche de bande dessinée, mais sans les textes, sans les bulles.
Sans les bulles, exactement. Ce storyboard fait office de scénario en images. Mmh. Et puis ensuite, il y a une mise en scène qui est faite en fait parallèlement à ça. On crée un style graphique. C'est-à-dire qu'on décide, en marge de l'image, en parallèle, dans quel univers on va faire exister les personnages. Vous parliez des décors de Blanche-Neige, je crois, on les évoquait. Blanche-Neige, par exemple, pour Blanche-Neige, Disney s'est inspiré, les animateurs qui ont travaillé se sont inspirés de l'univers médiéval de la Dame à la Licorne. Ceux qui connaissent le musée de Cluny à Paris ont pu voir la tapisserie de la Dame à la Licorne. Mais quand on voit la méchante reine avec sa silhouette très allongée, en fait, elle fait penser aux silhouettes des femmes médiévales qu'on trouve sur les tapisseries. Tout ça, c'est donc la mise en scène et l'univers graphique qui est défini.
Puis, alors, les couleurs aussi, j'imagine qu'il faut choisir le code couleur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas du film.
La palette.
Oui, la palette, bravo.
La palette du
bravo
film. Pierre Lambert nous expliquait
qu'on est deux.
C'est pour ça.
Que dans les anciens Disney, un seul personnage était fait par 17 ou 18 couleurs pour un seul personnage. Et aujourd'hui, il y a moins de couleurs. C'est peut-être notamment pour ça que l'esthétique est un peu moins fine que lors de la grande époque de Walt Disney.
Alors, une fois qu'on a tout ça, le matériel, les matériaux, les couleurs, le storyboard, il faut les dessinateurs. On a compris que ce n'était pas Walt Disney qui dessinait tout seul. Une équipe de combien de dessinateurs? Et comment faisait-il Walt Disney pour uniformiser ses différents dessins?
Alors, ils étaient des centaines de dessinateurs. On les appelait les animateurs. C'était d'ailleurs ceux qui étaient les mieux payés. C'est un détail intéressant parce que aujourd'hui, les mieux payés sont les vedettes. Si Gad Elmaleh donne sa voix à je ne sais quel personnage de dessin animé, c'est lui qui va être mieux payé que l'animateur qui travaille dans l'anonymat et qui dessine, qui produit ses dessins. Du temps de Walt Disney, c'était les animateurs qui étaient vraiment les stars. Et il y avait donc ils étaient d'abord quelques-uns, une dizaine, plusieurs centaines, et en fait il y avait des animateurs en chef qui coordonnaient tout ça, et au final Walt Disney lui-même donnait vraiment la trame, validait, et ce qui est intéressant c'est qu'il avait une gestion très personnelle des choses, puisqu'il confiait par exemple les personnages à dessiner en fonction du caractère des animateurs. Si vous en aviez un colérique, il lui confiait un personnage de méchant. Ceux qui ont vu Dumbo se souviennent.
Oh, mais qui n'a pas vu Dumbo? J'adore
Dumbo. Voilà, du moment
Dumbo.
Où la maman de Dumbo, le berce, et lui chante.
C'est le moment le plus émouvant du film.
Hein. Voilà, une très jolie chanson.
Comment l'animateur alors?
Mais l'animateur avait un fils de 2 ans. il s'est inspiré des expressions du fils de son fils de 2 ans pour dessiner Dumbo.
Fort intelligent tout ça.
Voilà, fort intelligent.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne Dossius Aliex Clistic Fragile Cali Super. Mais c'est tout de même aller un peu loin.
Indubitablement.
C'est une exposition hors norme qui vient d'ouvrir ses portes au Musée Ludique de Paris, l'art des studios Disney, le mouvement par nature qui propose 400 œuvres majeures et fait revivre les plus grands chefs-d'œuvre créés par Walt Disney et ses équipes. Isabelle Schmitz rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro hors série qui consacre un numéro au passeur d'histoire qu'était Walt Disney.
Disney est immortel, mais Walt Disney meurt le 15 décembre 1966. Il a à peine 65 ans. De quoi souffrait-il ?
Il avait un cancer du poumon. Et en fait, il est emporté assez vite. Et jusqu'au bout, en fait, il travaille à ses films, ses projets. Il avait déjà lancé le projet de Disney World en Floride. Il travaillait sur un projet de cité idéale. Il voulait mettre au centre de Disney World une cité appelée Epcot, Experimental, je ne sais plus quoi, qui était en fait une ville, une sorte de ville témoin où il appelait toutes les entreprises du pays à venir s'installer, travailler ensemble avec un projet de paix et de concorde très beau. Certainement un peu utopique, qui n'a pas vu le jour puisqu'il est mort avant. Mais voilà, jusqu'au dernier moment, il travaillait à ce projet. Il était à l'hôpital, en fait, dans une chambre qui donnait sur les studios Disney. Et il était toujours aussi proche de ses équipes et passionné, en tout cas, par ses différents projets, même s'il travaillait moins au dessin animé qu'à ses projets de parc d'attractions.
Et la disparition de Walt Disney a quelles conséquences sur le bon fonctionnement de son studio Disney ?
Alors, évidemment, c'est un énorme bouleversement. Son frère, Roy Disney, est quand même toujours là aux manettes. Il est là depuis le début avec lui dans l'aventure.
C'est sa doublure, en quelque sorte ?
Ce n'est pas sa doublure parce que disons qu'il se complète extrêmement bien. Ce serait son autre moitié dans le processus de fondation des studios et d'administration des studios. Roy, c'est le financier, c'est celui qui a les pieds sur terre. C'est lui d'ailleurs qui lance les produits dérivés. Ce n'est pas Walt qui a l'idée de tout ça. C'est Roy, c'est l'homme de l'argent qui est là dans les coups durs, qui parfois bride un peu la créativité de son frère, mais qui doit souvent s'incliner devant le fait que, oui, en fait, le petit, il est obstiné, mais finalement, il va réussir à imposer ses idées.
Mais Isabelle Schmitz, il y a quand même un creux dans l'histoire des studios Disney après la mort de Walt Disney, justement parce que cette verve-là, cette fièvre même créatrice, elle est plus là.
Non, c'est vrai. En fait, le Livre de la Jungle sort après la mort de Walt Disney. Là, il y avait travaillé avec son équipe, ses équipes, et il y a également les Aristochats qui étaient déjà dans les tubes. Donc ça, ce sont d'excellents films. Après, Bernard et Bianca et puis les autres souffrent un peu d'un manque de souffle, d'un manque d'inspiration.
Je n'ai rien vu, moi. Quand j'ai tellement adoré Bernard et Bianca, je n'ai pas vu le manque de souffle.
Oui, mais quand on commence par ça, effectivement, on peut se dire
petit,
c'est super.
Aussi, j'en ai un très bon souvenir, j'ai beaucoup pleuré.
Alors que moi, qui avais vu tous les précédents, je trouvais ça beaucoup moins bien, forcément.
L'ancêtre de l'émission.
Voilà, l'ancêtre, c'est moi. Mais Walt Disney, évidemment, ça semble évident qu'il va y avoir un creux créatif après sa disparition. Ça redémarrera au milieu, voire à la fin des années 80. En revanche, il a laissé une méthode. Par exemple, qu'est-ce qu'il faisait avec les contes traditionnels Disney ? Quand il prenait un conte, qu'est-ce qu'il en faisait ?
Alors, en fait, il l'adaptait le mieux possible en fonction du dessin animé et de son temps. C'est vrai qu'on l'a beaucoup accusé d'avoir pillé l'héritage européen pour l'américaniser. C'est vrai qu'il...
Pour l'édulcorer aussi.
L'édulcorer. Mais alors ça, en fait, on a dans le Figaro hors série un assez long article de Vianney Ledieu, qui lui-même est conteur, qui a analysé le rapport de Disney avec les contes et comment il les transpose à l'image. Et en fait, il explique que cette entreprise d'édulcoration des contes ne date pas du tout de Disney, que Perrault et Grimm eux-mêmes le faisaient, qu'ils changeaient des détails, et qu'il y a certains détails en fait qui étaient peut-être difficilement imaginables à l'écran au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale déjà qui avait traumatisé l'Europe et l'Amérique. Et par exemple, il y a un détail dans Grimm, les sœurs de Cendrillon se font crever les yeux par des pigeons à la fin pour se venger.
Elles le méritent.
Et puis voilà, avant, elles le méritent peut-être, mais en tout cas, pour des enfants, quand on voit...
Évidemment, je dis ça pour rigoler, hein.
Mais pourquoi pas ?
Oui. Ils pourraient...
Non, mais même dans la version originale de Peter Pan, Que fait Peter Pan avec les enfants qui grandissent ?
Voilà,
on n'a pas ça dans le Disney.
Peter Pan tue les enfants qui grandissent et qui ne veulent pas rester éternellement enfants.
Donc ça, ce n'est pas la morale Disney, les choses soient claires.
Voilà, ça n'est pas la morale Disney. En fait, Disney n'a pas totalement édulcoré les contes. Il y a quand même des passages. Il n'y a qu'à voir Blanche-Neige, la méchante reine, la forêt, les doigts crochus des arbres, etc. Il y a quand même un certain nombre d'enfants qui ont fini sous leur siège en pleurant et qui voulaient sortir du cinéma parce que ça faisait peur. Donc il n'a pas totalement évacué la violence. Mais c'est vrai qu'il a transposé quand même le conte à quelque chose de visible et d'appréciable selon la mentalité de son temps.
Walt Disney qui a aussi qui a écrit, inventé des histoires et des univers et qui a aussi assuré et créé sa propre mythologie.
C'est vrai que la gauche américaine lui a beaucoup reproché, surtout à sa mort, mais même avant, d'avoir représenté un monde où il n'y a pas d'autre tension que celle du bien et du mal à travers un individu, un gentil, un méchant. Mais il n'y a pas de tension entre les pauvres et les riches, il n'y a pas de tension raciale. Et donc d'avoir créé une sorte de monde idéal qui en fait s'approche très très peu de la réalité dans laquelle il vivait. C'est vrai. Il a également exalté la famille, le père, la mère, les enfants. On lui reproche une vision très stéréotypée de la femme. C'est vrai que les princesses, Cendrillon, elle lave le plancher, après elle danse, elle est jolie, Blanche-Neige, elle fait la cuisine.
Certes, c'est vraiment l'Amérique WASP, hein, c'est les White Anglo-Saxon protestants, c'est-à-dire c'est l'Amérique blanche protestante qui est là.
C'est vrai.
Dans ces films, il faut attendre très longtemps pour avoir des héros qui ne sont pas blancs.
Qui sortent un peu de là.
Bah oui.
Il y a un tournant après, effectivement, avec Pocahontas, Mulan, Vaiana.
Mais le prochain. Vaiana qui sort le 30 novembre en France et qui se passe en Polynésie ou à Hawaï, si je ne me trompe. Merci beaucoup. Merci Isabelle Schmitz. On conseille la lecture du hors-série du Figaro pour bien préparer la visite de l'expo Disney, le mouvement par nature qui se tient jusqu'au 5 mars au Musée Art Ludique de Paris.
Mais comme vous fleurez bon la rose, mon Thomas, jamais d'odeur de poireau moisi de vous ne se dégage.
Vous faites des rimes?
Oui, j'écris bien, non?
Bah oui, c'est bien. Avec Sidonie, il y a quoi? Il y a moisi.
Il y a pipi.
Oh non!
C'est très triste. Allez, tout de suite, on vous explique comment notre nez reconnaît le propre du sale. Restez sur RTL.